procédure pour accéder à l'APA. Anise-le-Chat, qui représente la communauté de communes du Mortainais, donc c'est un territoire qui se situe dans le département de la Manche, va vous présenter une expérimentation sur l'échelle de ce territoire. Et enfin, Anne Zerkowitz, qui représente l'association Texap West, qui est une association dont le siège est situé à Alençon dans l'Orne, va vous présenter les activités de cette association et quelles actions ses membres mettent en place pour la silver economy sur le territoire. Voilà, donc je laisse la parole à Monsieur Lemenet du Conseil Général du Calvados. Je reprécise peut-être pour ceux qui n'auraient pas une image, une cartographie très précise de la Basse-Normandie. La Basse-Normandie, c'est la Manche, le Calvados et l'Orne. Les trois départements sont justement représentés autour de cette table ronde. Comme vous voulez. De là, ouais.
Bonjour à tous. L'action du département en faveur de nos aînés, alors je vais pas m'étendre, hein, je vais pas vous présenter de façon très détaillée le schéma gérontologique départemental. Il est basé sur trois axes, si on peut passer. Voilà. Le premier axe qui concerne la prise en charge des personnes âgées à domicile, c'est assez classique. Le troisième, l'accueil en établissement. Et un axe spécifique pour la prise en charge de l'aide aux aidants, notamment dans le cadre des pathologies Alzheimer, où le constat a été fait lorsqu'on a fait des groupes de travail avec les partenaires qu'il y avait un gros besoin sur l'aide aux aidants. Sur la prise en charge à domicile, le premier volet concerne la coordination et l'orientation avec le déploiement de centres locaux d'information et de coordination gérontologique sur l'ensemble du territoire. Donc ce sont les guichets uniques d'accueil des personnes âgées et de leur entourage, mais également des professionnels qui permettent, entre autres, de formuler une demande d'APA. La coordination et l'articulation des interventions entre les différents partenaires au domicile, donc je pense plus spécialement aux services d'aide à domicile et aux services de soins infirmiers à domicile, sur lesquels on envisage éventuellement de déployer des outils tels que des tablettes qui remplaceraient le carnet de liaison, puisque c'est souvent un carnet papier et en termes de confidentialité, ça peut poser des difficultés. Et enfin, sur le volet prise en charge à domicile, il y a tout ce qui concerne la télégestion pour les employés à domicile, donc avec le système de badgeage, de facturation et de règlement des factures. Pour l'aide aux aidants, très rapidement, donc ça consiste essentiellement à développer des solutions de répit avec de l'hébergement temporaire et de l'accueil de jour, et développer également pour les aidants familiaux des groupes de parole. Et pour l'accueil en établissement, je vais terminer là-dessus, donc une augmentation du taux d'équipement et le développement de places d'accueil spécifiques pour les malades d'Alzheimer avec les UHR et les PASA, notamment. Donc, concernant le numérique, nous sommes membres du conseil d'administration du pôle de compétitivité TES, Transactions électroniques sécurisées, et nous sommes membres du collège qui comprend les collectivités territoriales avec notamment le conseil général de la Manche, Caen-la-Mer également, la communauté d'agglos. Le conseil général a mis en place un déploiement du très haut débit sur le territoire. D'ici fin 2015, 76% des foyers devraient être couverts par la fibre. Et d'ici une quinzaine d'années, 88% de la population. Donc évidemment, le déploiement de la fibre, avec les débits qu'elle suppose, nous incite à trouver des usages pour le très très haut débit. Et donc, ces usages, je vais vous en présenter quelques-uns, certains qui sont déjà mis en œuvre et d'autres qui sont à l'étude. Alors, sur les projets déjà réalisés, donc pour le maintien à domicile, nous avons une téléalarme qui est une téléalarme relativement classique. Nous avons, et je vais faire un tout petit focus là-dessus, dématérialisé les demandes d'APA. Nous travaillons également sur le volet prise en charge en EHPAD avec la dématérialisation du dossier d'inscription en EHPAD. Alors là, c'est à l'échelle régionale, puisque ce projet qui s'appelle Trajectoire, piloté par l'ARS, permettra aux usagers et surtout aux médecins traitants de remplir le dossier médical de façon dématérialisée avec une transmission des dossiers d'inscription dans tous les EHPAD et une gestion informatisée des listes d'attente. Et enfin, la mise en place de la télégestion. Alors, sur le dossier APA, ça peut paraître un peu paradoxal quand on... Je vais boire un tout petit peu, excusez-moi. Quand on a voulu mettre en place un guichet de téléservice, de se dire, tiens, l'APA, c'est destiné aux personnes âgées dépendantes, c'est un petit peu curieux de commencer par là. Donc on a choisi l'APA, pourquoi ? Parce que c'est un gros volume de dossiers. L'APA dans le Calvados, c'est 15 000 bénéficiaires, c'est 12 000 demandes par an. C'est une procédure qui est très cadrée, très administrative, donc qui s'y prêtait vraiment bien, avec de gros enjeux organisationnels pour notre collectivité. Donc je parlais de guichet de téléservice. Il y a d'autres services qui seront déployés hein, dans le cadre du schéma de modernisation. Et la démarche qui a été, je dirais, la plus compliquée, ça a été de simplifier tout, puisque dématérialiser, ça veut dire tout remettre à plat. C'est pas simplement caler une solution Internet sur une organisation existante. Il a fallu tout revoir, tout remettre à plat et faire un gros effort de simplification. Alors, simplification pour l'usager, mais également pour les services. Et on est passé d'une logique, ça a été un petit peu une révolution interne, hein, puisqu'on est passé d'une logique de contrôle sur pièce à une logique a posteriori, un peu comme l'ont fait les services fiscaux, hein, puisque maintenant vous faites une déclaration en ligne et vous ne devez fournir les pièces justificatives, notamment si vous déclarez des travaux ou autres, que lorsque vous faites un contrôle. Et là, donc, pour la demande d'APA en ligne, la seule chose qu'il faut fournir, c'est soit un scan, soit une photo via un smartphone de la pièce d'identité ou du jugement de tutelle, si la personne est sous tutelle. Et toutes les autres pièces sont mises à disposition du travailleur médico-social au domicile de la personne. Voilà. Parce qu'on a très vite compris que si on mettait en place un guichet de téléservice et qu'il fallait joindre tout un tas de pièces, on n'y arriverait pas. Donc voilà, ça a été vraiment le gros enjeu. C'est un projet qui a débuté en 2011. On l'a ouvert au grand public depuis le 1er octobre, avec une campagne de communication qui démarre uniquement maintenant, puisqu'on voulait laisser le temps aux équipes de se faire un petit peu la main. Donc, une approche globale, effectivement. Hein. On effectue sa demande et on peut la suivre. Ça veut dire que l'usager crée un compte utilisateur. Et il peut à tout moment savoir à quel stade est sa demande. Est-ce qu'elle est prévue pour la commission? Est-ce que le travailleur médico-social va passer au domicile? Est-ce que ça va être notifié? Donc vraiment, tout le long de la procédure, on peut voir où on en est sur le site Internet. Ça a évidemment nécessité une conduite du changement importante, puisqu'il a fallu faire comprendre aux équipes, notamment le fait de ne plus demander les pièces justificatives, ça a été très compliqué. Ça a été assez mal vécu. Je vois que vous souriez, monsieur, je pense que vous êtes confronté à ça. C'est vrai qu'il a fallu accompagner ce changement-là parce qu'il y avait des craintes hein, de fraude. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et évidemment, il a fallu faire une grosse communication, mais à la fois en interne et en externe. Et enfin, ça a été un travail intéressant hein, entre équipes du CG, que ce soit les services juridiques, la DSMI chez nous, la direction de la stratégie de modernisation ou les services juridiques, donc avec notre prestataire donc pour développer le guichet de téléservice et évidemment notre prestataire qui gère notre logiciel métier, hein, sachant qu'il y en a deux grosso modo, hein, chacun ayant comme client la moitié des départements. C'est-à-dire une cinquantaine. Et nous avons bénéficié, je tiens à le préciser, de financement de l'Union européenne sur ce projet. Donc ça, c'est ce que nous avons réalisé. À compter de 2014, donc nous envisageons d'autres projets. Hein. Bon, je prends l'item lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc nous entendons développer la visioconférence, puisque la technologie, c'est bien, mais j'en parlais à l'instant, uniquement pour la sécurité, je pense qu'il faut aller au-delà. Il ne faut pas que ce soit uniquement du sécuritaire, puisqu'on aura du mal à la faire entrer dans les foyers. Il faut qu'il y ait un côté ludique et communication. Donc développer la vision conférence et tout un tas de services connectés via des tablettes ou des smartphones, mais plutôt des tablettes a priori. Notamment des services, des tablettes qui peuvent commander la télévision, qui peuvent, vous pouvez ouvrir Skype de façon rapide, voilà, ce genre de choses. Donc pour favoriser le maintien à domicile, nous travaillons actuellement sur un projet de coaching pour activité physique par visioconférence. Évidemment, je disais pas que le côté sécuritaire, mais le côté renforcement de la sécurité est important aussi, hein. Et nous allons équiper nos travailleurs médico-sociaux courant 2014 de tablettes numériques pour faire l'évaluation de la dépendance et élaborer le plan d'aide en direct devant la personne. Et nous mènerons également des actions pour sensibiliser les seniors aux usages du numérique via notamment le rond-point numérique, qui est une structure qu'on a mis en place au niveau du Conseil général pour développer les usages du très haut débit. Voilà, grosso modo nos projets. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vous propose que les trois présentations soient faites l'une après l'autre et qu'on aille, qu'on revienne sur les questions en fin de présentation. Donc, je passe tout de suite la parole à Anne-Lise Lechat, de la communauté de communes du Mortainais dans la Manche.
Bonjour. Donc, nous, on est en train de lancer en fait une expérimentation sur le maintien des personnes fragilisées à domicile. Qui est lié à une volonté en fait tout d'abord politique, puisqu'en 2001 la communauté de communes du Mortainais a mis en place une politique volontariste de désenclavement de son territoire avec pour objet la réponse à l'appel à projet lancé en 2005 par l'État des pôles d'excellence rurale. En 2007, elle a obtenu la labellisation de son pôle d'excellence rurale Novéa, qui aujourd'hui, après 6 années d'expérience, en fait, nous sert d'appui sur le maintien des personnes fragilisées à domicile. On a eu aussi une dynamique partenariale qui s'est lancée sur ce projet, puisque on a l'appui du pôle d'excellence, mais aussi, on a aussi l'appui du Conseil général de la Manche, puisque de notre côté, c'est une réflexion qu'on a lancée depuis donc 2007. Le Conseil général de la Manche nous a rejoint en 2012 et on travaille aussi avec le pôle TES sur ce sujet depuis le début de l'année 2013. On a une dynamique territoriale aussi avec le soutien du CLIC, qui est le Centre local d'information et de coordination du Mortainais, qui travaille en direct avec les personnes fragilisées. Avec des pharmaciens du territoire et différents médecins. Aujourd'hui, l'expérimentation qu'on est en train de lancer comporte 3 lots. Tout d'abord, le premier lot, qui est un outil de gestion de la PA et de la PCH, qui est porté uniquement par le Conseil général de la Manche, puisque c'est eux qui sont concernés, qui a pour but la dématérialisation de la demande, du contrôle, d'effectivité et de l'instruction au domicile. L'idée, en fait, sur ce lot, c'est de moderniser tout le traitement des dossiers APA et PCH. On a ensuite le lot 2 qui comporte le cahier de liaison qui là est porté conjointement par le Conseil général de la Manche en fait et la communauté de communes du Mortainais, où l'idée c'est d'avoir une transmission d'informations en temps réel entre le senior et son environnement, donc c'est-à-dire sa famille, ça peut être les aidants à domicile, via une plateforme disponible sur tablette, de faciliter aussi la coordination et l'action des intervenants au domicile et des professionnels de santé, puisque sur le département de la Manche, de façon assez généralisée, on est sur des territoires ruraux qui engendrent beaucoup de déplacements lors de visites au domicile des personnes fragilisées, et on a une nécessité d'optimiser les déplacements et de les rendre utiles. Et on a aussi un souci d'habitat isolé, en fait. Donc l'idée, c'était un peu de rompre cet isolement via la plateforme qui permet d'échanger avec sa famille via des mails, qui permet d'échanger des photos, qui permet de garder le contact via la visio. Donc de rompre un peu cet isolement et de créer une nouvelle activité avec les nouvelles technologies. Ce lot, en fait, pour nous, est particulièrement important puisque il a pour but d'être le fédérateur des 3 lots. Il doit agréger les données du lot 1, qui sont des données médico-sociales, et aussi les données du lot 3, qui sont liées à des capteurs de chute. Le lot 3, en fait, concerne, là, est uniquement porté par la communauté de communes et il concerne la sécurisation du domicile. L'idée, c'est d'installer des capteurs de chute au domicile des seniors afin de pallier, entre guillemets, au problème de la téléalarme qui implique une action du senior pour appuyer sur le bouton. On s'est dit que dans le cadre de l'expérimentation, c'était le moment de tenter quelque chose et d'essayer une nouvelle technologie pour justement limiter les actions du senior et permettre que s'il s'évanouit ou s'il a un malaise et qu'il ne peut pas appuyer sur le bouton, on puisse réagir malgré tout très rapidement via les capteurs de chute. Et on a aussi l'installation d'un pilulier électronique afin de limiter les erreurs de médicamenteuses, le surdosage, l'oubli des médicaments. Les objectifs en fait de cette expérimentation sont multiples sur notre territoire. Tout d'abord, on a une nécessité de pallier à la désertification médicale, puisqu'on a déjà une désertification médicale du point de vue des spécialistes. Du côté des généralistes, on est encore plutôt bien servi, mais on est sur une population vieillissante aussi du point de vue des généralistes. Et on sait que dans 5 ans, on va avoir des soucis. Donc on a mis en place cette expérimentation qui a pour but de faire arriver aussi des nouveaux médecins sur notre territoire, intéressés par les nouvelles technologies et de pallier à cette désertification médicale. Sachant qu'à côté, on utilise aussi des solutions beaucoup plus basiques et habituelles, comme les pôles de santé ou ce genre de... Je ne sais plus ce que... Bon. L'idée aussi, l'objectif suivant, c'était aussi de favoriser la communication entre les professionnels de santé, puisque comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est sur un territoire rural, ce qui engendre énormément de kilomètres. Il faut savoir que juste sur le territoire de la communauté de communes du Mortainais, qui comprend 4 cantons, on est sur un territoire de 437 km². Donc le déplacement des médecins, voilà, c'est tout de suite, ça prend du temps, et on a une infrastructure routière qui est quand même limitée et qui ne facilite pas toujours les déplacements. Donc l'idée, c'était d'utiliser les nouvelles technologies, mais aussi les nouvelles infrastructures numériques qui sont en cours avec le très haut débit de déploiement chez nous, pour favoriser, améliorer l'offre de soins qu'on propose aujourd'hui sur le territoire. Et on a aussi comme objectif de rompre l'isolement en favorisant l'échange, puisque aujourd'hui la population sur notre territoire est vieillissante, ce qui signifie que les enfants et les petits-enfants des personnes vivant sur notre territoire habitent rarement juste à côté. Donc grâce à ces nouvelles technologies, en fait, on espère recréer du lien, et recréer du lien aussi intergénérationnel qui est peut-être moins existant aujourd'hui. On utilise aussi cette expérimentation pour 2 autres points. Qui sont le développement économique local, puisque notre objectif, c'est aussi de favoriser la création d'emplois dans le secteur des services afin de permettre l'implantation de nouveaux actifs et de rajeunir notre population et de favoriser le développement d'une filière économique dans ce domaine. Et aujourd'hui, on a engagé une réflexion au sein de la Manche et de la Sylvain Normandie sur les offres de formation qui se font sur le territoire, puisqu'on a le pôle d'excellence rurale Novea qui travaille dans le maintien des personnes fragilisées à domicile et qu'on se pose différentes questions sur comment former les aidants, les professionnels de santé, les familles, les seniors. Voilà, c'est une réflexion qui a été qui est menée suite au lancement de l'expérimentation qu'on est en train de faire.
Merci beaucoup. Donc on a eu deux présentations de collectivités locales et de territoires qui investissent sur la partie numérique et sur les usages du numérique. La présentation qui suit va être un petit peu différente. Texap West, c'est une association d'entreprises, donc c'est des initiatives plus privées, là aussi sur un territoire particulier.
Bonjour. Donc, je suis Anne Zerkovitz, je suis chargée de développement de l'association Texap West, qui est une association d'entreprises dont la vocation est de dynamiser la filière Silver Economy sur le territoire, en permettant aux entreprises de travailler ensemble, en les mettant en réseau. Et l'objectif est de faire émerger des projets collaboratifs. Mais là, je vais vous parler plus particulièrement de la maison domotique d'application pédagogique. Donc, c'est un programme dont l'idée a émergé en 2008. qui a pris un certain temps, hein, en 2009, recherche de financement, 2010-2011, cahier des charges et bouclage du financement. En 2012, les travaux ont pu commencer et en 2013, on a pu ouvrir la maison qui est entrée réellement en fonctionnement au mois de septembre. La MDAP, c'est un projet qui est porté par l'IRSAP, qui est l'Institut Régional des Services à la Personne. C'est le seul CFA, Centre de Formation à l'Apprentissage, qui est dédié aux services à la personne. Ce projet a vu le jour dans un contexte qui est suivant, c'est-à-dire que pour les familles, comme pour les personnes âgées, l'objectif est de rester à la maison le plus longtemps possible. La politique de soutien aux familles et aux personnes âgées des collectivités était également de favoriser le maintien à domicile plutôt que l'accueil en structure collective pour des raisons budgétaires que tout le monde connaît. Et enfin, il y avait une perspective, c'est de devoir créer des emplois non délocalisables et de proximité. Donc cette maison a trois objectifs. Le premier est d'informer le grand public des solutions qui sont possibles, innovantes, pour pouvoir rester à domicile. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on a commencé les portes ouvertes à l'heure actuelle, et les gens nous disent souvent « Ah, mais si on avait su que telle solution existait, on aurait pu faire autrement ». Donc il y a un gros travail d'information à faire. Le deuxième usage, c'est de former et professionnaliser les futurs aidants à domicile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'IRSAP qui est porteur de ce projet, donc qui forme en formation initiale et formation continue des aidants à domicile. Et c'est une formation qu'il faut rendre le plus attractive possible, qui aujourd'hui, quand on regarde les statistiques du Pôle emploi, les difficultés à recruter sont souvent dans les services à la personne. On a besoin d'aidants à domicile, on a besoin de rendre ce métier attractif. Et introduire les technologies en modernisant cette formation va permettre d'aller dans ce sens-là. C'est vrai que les aidants à domicile vont être les premières personnes confrontées aux nouvelles technologies. Elles vont l'utiliser, elles vont être amenées peut-être à le prescrire, voire à le distribuer. Donc une sensibilisation est très importante. Le troisième usage, le troisième objectif, c'est d'instaurer une dynamique de filière sur l'innovation au service de la personne, donc avec TechSapWest dont je vous parlais en introduction. Et TechSapWest donc s'appuie sur les industriels qui ont des idées, des intuitions, des technologies qu'ils veulent mettre au service des personnes âgées, mais ils ont besoin d'un retour des prestataires de services à la personne qui sont au quotidien aux côtés des personnes âgées, d'un retour des organismes de formation qui forment les futurs aidants à domicile, et d'un retour également du sanitaire et social, et donc tous ceux qui sont en contact avec les usagers. Et les industriels, effectivement, sont très demandeurs de ce travail collaboratif avec les gens qui sont confrontés au quotidien aux problématiques des personnes âgées. Donc, effectivement, il y a de nombreux acteurs autour de ce projet. Donc, on est une cinquantaine d'industriels et de cofinanceurs privés, 14 organismes de formation qui ont travaillé, en fait, à l'élaboration du cahier des charges. Donc, dedans, bon, il y a forcément l'IRSAP, il y a l'école d'ergothérapie, de kiné, etc., et on a aussi l'implication de l'ensemble des acteurs locaux. Donc l'équipe du projet, il y a 5 collaborateurs au sein de l'IRSAP. Il y a un comité scientifique et d'éthique, le CSE, qui a été monté, qui est constitué de 7 collèges, 3 membres par collège, qui regroupe un peu tous les corps qui sont partie prenante du projet, donc le médical, la formation, les prestataires de SAP, les industriels, les collectivités, les particuliers, et puis une dernière catégorie pour ceux qu'on n'arrive pas à... qui sont un peu transverses. Et au sein de la MDAP, on a recruté un animateur-régisseur qui s'occupe de la maintenance, du fonctionnement de la MDAP, qui doit trouver son modèle économique également, et des relations avec les fournisseurs des matériels, parce que les matériels qu'on intègre à la MDAP sont amenés à tourner, en fait, au gré de l'évolution des technologies. C'est clair que ce n'est pas un showroom exhaustif, on ne pourra pas montrer tout ce qui existe, mais en tout cas entraîner des pistes de réflexion chez les gens qui visitent la MDAP, qui disent oui, effectivement, dans cette voie-là, je peux peut-être trouver une solution qui correspond à ma problématique. Donc, c'est une maison individuelle de 120 mètres carrés, avec des pièces à vivre. Hein, donc, il y a cuisine-salon, WC, chambre, salle de bain, tout équipé de différents matériels. Avec une mezzanine au-dessus, ce qui permet en fait d'avoir une vue plongeante sur chacune des pièces, ce qui peut permettre de mettre en situation des élèves avec les autres qui regardent au-dessus, ou de préparer une scénette avec des comédiens et puis d'avoir un public au-dessus. Et on est également relié à un amphithéâtre de 70 places. Donc on peut envoyer des images de la MDAP à l'amphithéâtre pour permettre à un plus large public de profiter des images que l'on peut produire. L'objectif de cette maison, c'est vraiment de montrer une maison d'habitation. C'est pas de transformer sa maison en maison de retraite, c'est de rester chez soi en s'y sentant bien, donc en sécurité, avec le confort, un certain nombre d'outils, mais qui ne transforme pas sa maison en hôpital. Donc on insiste beaucoup sur le côté esthétique, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le design for all ou le design universel, pour éviter l'effet stigmatisant. Donc il y avait des photos, mais je ne sais pas si tu les... Bon, c'est pas grave. Par exemple, on a une cuisine qui est laquée rouge, qu'on pourrait tous vouloir chez soi, à condition d'aimer le rouge, évidemment. Mais voilà, qui ne fait pas cuisine d'hôpital, avec un plan de variable à hauteur variable, un plan de travail, pardon, à hauteur variable, des étagères qui descendent en dessous du placard, etc. On a des WC à hauteur variable, on a... et puis tout un tas de matériel, je ne vais pas tous vous les citer. Mais c'est que la personne se sente bien chez elle et puisse avoir envie d'acheter ses matériels avant d'être confrontée au problème, être dans l'anticipation sans avoir l'impression d'accélérer les choses. L'objectif, en fait, ce sont que les technologies s'effacent, qu'il ne reste plus que l'usage plutôt que le produit, la technologie. Ça, on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, de toute façon on ne pourra pas forcément comprendre, mais que voilà, on ait l'usage du produit et le confort qu'il procure en se sentant bien chez soi et dans un univers qui nous corresponde, en fait.
Très bien, ben, écoutez, on va en rester là, et puis merci pour votre écoute et votre participation.